Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la dernière parution de l'état du monde avec cette interrogation qui gouverne le monde, une question interrogative bien sûr, pardonnez la redondance, mais pas seulement, tant on sent le constat et d'une certaine manière la vacuité de la réponse. Bien sûr, les États avec leurs appareils institutionnels offensifs et répressifs restent les principaux acteurs géopolitiques, mais les rapports de puissance entre eux ont été bouleversés, la forme directe de la colonisation a disparu, l'Europe ne domine plus le monde, la bipolarisation Est-Ouest s'est effondrée, la puissance chinoise a émergé, des états post-coloniaux se désagrègent, les formes des conflits et des violences ont changé, face aux tensions, l'exercice de la contrainte physique se durcit, les états d'exception s'étendent dans la durée, les pouvoirs policiers se renforcent et les actes terroristes sont plus visibles. Nos invités, Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, bonjour.
Bonjour.
Dominique Vidal, journaliste et historien, bonjour.
Bonjour.
Vous avez tous les deux dirigé l'édition 2017 de l'état du monde qui vient de paraître donc aux éditions Autrement. Vous travaillez tous les deux depuis longtemps sur la question de la puissance et du rôle de l'État dans les relations internationales. Qui gouverne le monde? Vous posez donc la question de savoir si la mondialisation n'est pas trop complexe pour obéir à un seul maître et si l'interdépendance n'atténue pas d'une certaine manière la course à la puissance. La scène internationale n'en demeure pas moins aujourd'hui un théâtre de rivalité féroce. Est-ce que la puissance est aujourd'hui une puissance plus cachée qu'elle ne l'était hier, voire plus mystérieuse, Bertrand Badi?
Je crois d'abord qu'il faut se poser la question de la compatibilité entre mondialisation et puissance au singulier. C'est-à-dire que la mondialisation a un effet paradoxal, elle unifie le monde, elle l'intègre, elle rend tout le monde dépendant de tout le monde, mais en même temps, elle crée des logiques d'autonomie qui s'expliquent de manière très simple. Il y a de plus en plus d'acteurs qui sont pertinents sur la scène internationale. Autrefois, il y avait que les États qui jouaient, en tous les cas, à titre principal sur la scène internationale. Maintenant, tout le monde joue sur la scène internationale. Tout le monde est interdépendant de tout le monde. Et en même temps, chacun retire des ressources technologiques une capacité d'autonomie encore plus forte. C'est-à-dire qui permet à une firme multinationale ou qui permet à un acteur religieux ou à un média de déployer des actions sans qu'il soit aussi facile qu'autrefois de le contrôler. En même temps, vous avez ces phénomènes de globalisation, mais vous avez aussi ces ressources dont chaque acteur dispose et qui lui permet de protéger, renforcer ses autonomies et donc satisfaire ses intérêts propres. On a donc, dans la mondialisation, grand paradoxe, un monde éclaté, où chacun joue son jeu, et évidemment, le résultat de tout cela, c'est un espoir qui habite plus ou moins tout le monde, une régulation. Alors on n'ose pas dire un gouvernement du monde, mais une gouvernance du monde, c'est-à-dire que les uns les autres s'accordent pour qu'il y ait, face aux enjeux les plus importants, l'environnement, l'alimentation, la sécurité, sécurité militaire, sécurité politique, sécurité économique, une sorte de régulation globale. Mais vous voyez, à ce moment-là, on parle de régulation globale, on ne va pas parler de gouvernement. En un mot, il n'y a pas un personnage mystérieux qui, derrière les rideaux, tirerait les ficelles. Tout le problème, c'est qu'est-ce qui va gagner là-dedans? Ces forces d'autonomie ou ces désirs de régulation?
Dominique Vidal.
Oui, moi je voudrais d'abord dire combien la question nous semble légitime. Il suffit de penser à ce qui se passe à Alep. Il y a une trentaine d'années, juste avant sa disparition, l'Union soviétique avait perdu quasiment l'essentiel de ses alliances au Proche-Orient, et les États-Unis sortaient de la guerre du Golfe plus dominants, plus hégémoniques que jamais dans la région. Et voilà qu'on se retrouve à Alep avec une Russie qui mène le jeu, des États-Unis visiblement incapables, ou en tout cas ne souhaitant pas mettre fin au carnage. Bref, on a un monde qui est complètement transformé, donc qui pose cette question-là. Deuxième chose, je voudrais dire, il y a deux types de réponses à la question posée, qui gouverne le monde. Il y a des réponses simplistes. Par exemple, les Illuminati gouvernent le monde. Par exemple, il y a un complot des sages de Sion. Par exemple,
là,
etc.
On est dans
etc.
des sociétés plus secrètes.
Voilà, mais il faut bien mesurer que ce ne sont pas des réponses complètement marginales. Un Français sur cinq croit que les Illuminati gouvernent le monde. un Français sur cinq. 16% des Français pensent qu'il y a un complot sioniste qui permet aux sionistes de diriger le monde. 16% des Français pensent que ce qui se dit sur les attentats en France comporte des zones d'ombre importantes.
Comme cela s'est dit aussi au moment du 11 novembre.
Et plus encore, sur le 11 septembre. On est vraiment devant des réponses simplistes. Autre type de réponse, celle que nous essayons de mettre en œuvre dans cette édition de l'État du Monde, ce sont des réponses complexes. C'est-à-dire qu'ils font intervenir, comme le disait Bertrand, les États, les organisations internationales, les multinationales, mais aussi les traditions, les religions, les hommes par rapport aux femmes, les réseaux, les médias. Bref, toute une série d'éléments qui, au fond, répondent, mais seulement ensemble, à la question posée. Si on veut déterminer lequel de ces éléments est l'élément déterminant, on n'y arrivera pas.
Alors, je voudrais juste poursuivre sur la notion de complot qu'évoquait à l'instant Dominique Vidal. Je me tourne vers vous, Bertrand Badi. Ces interprétations complotistes, elles envahissent Internet et comment expliquer ce développement ?
Justement, je crois que ça s'explique dans le prolongement de ce qu'on vient de dire. Parce que la réponse est complexe, parce qu'elle n'est pas très audible ni très visible, on a tendance à se réfugier dans des explications toutes faites. Ce qui n'est pas évident dans l'expérience quotidienne conduit immanquablement à produire des grandes représentations simplificatrices. On a besoin d'explications, ces explications ne nous sont pas sous la main, donc on va inventer une explication. À cela s'ajoute quand même quelque chose de très important, c'est que la théorie du complot, c'est souvent la production de personnes, de groupes, de catégories sociales dominées.
D'officines.
Oui, mais je veux dire, ceux qui y adhèrent sont ceux qui appartiennent à la fraction dominée du monde, c'est-à-dire qui se sentent dans une situation injuste, dans une situation exploitée, dans une situation dominée, et qui veulent réagir à cette domination. Que fait-on quand on réagit à une domination ? D'abord, on s'arrange pour trouver le dénominateur. Qu'il soit réel ou qu'il soit imaginé, c'est la même chose. On a besoin, quand on souffre, de trouver quelqu'un qui est responsable de nos maux. Et toute l'aventure commence ainsi. Il ne faut pas oublier une chose qui me paraît très très importante. Peut-être est-ce la chose la plus importante de nos 10 ou 20 dernières années. C'est que les imaginaires se mondialisent. Autrefois, quand vous aviez des problèmes, eh bien, l'imaginaire que vous enclenchiez en vous-même pour tenter de répondre à ces problèmes, il avait une envergure locale, c'est-à-dire il englobait votre voisin, à l'extrême limite, la nation tout entière. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une situation de souffrance et de tension, l'imaginaire qui répond en vous, il a une amplitude mondiale, c'est-à-dire qu'il voit le monde. Le miséreux autrefois ne voyait pas le monde. Le miséreux aujourd'hui voit le monde parce qu'il y a l'urbanisation, parce qu'il y a l'essor de la communication. Et donc, cette vision globale que tout individu, aussi modeste soit-il, a du monde, conduit effectivement à cette représentation du dominant, souvent masqué et responsable de vos maux, responsable de vos souffrances et celles de vos familles.
Et les imaginaires se nourrissent les uns les autres, Dominique Vidal.
Absolument, je crois, c'est très important de comprendre que le complotisme ne vient pas de nulle part. Il y a des officines qui sont là, et ça n'est pas d'aujourd'hui, puisque le protocole des sages de Sion, par exemple, a été inventé, on le sait aujourd'hui clairement, et on connaît même le nom, par des gens qui travaillaient pour l'Okhrana, pour la police secrète tsariste, et qui voulaient attiser l'antisémitisme, qui n'en avait pas besoin, il était déjà bien développé en Russie et en Pologne. Mais ce qui est important, comme Bertrand l'a dit, c'est de comprendre pourquoi ça marche. Alors, il y a évidemment une première réponse qu'on oublie toujours, c'est le fait que l'histoire est jalonnée de complots. Donc, c'est pas complètement absurde de dire qu'il y en a, puisqu'il y en a eu. On peut pas les nier. Il y a beaucoup de complots, des vrais et des faux. Par exemple, quand on regarde les procès qui se sont déroulés dans les pays de l'Est après la Deuxième Guerre mondiale, on voit bien qu'il y avait un complot, mais un complot non pas de ceux qui étaient désignés, mais du pouvoir en place, et de Moscou en particulier, pour charger tous ces responsables, la plupart communistes d'ailleurs, de tous les péchés des nouveaux régimes. Il y a deuxièmement un monde très complexe, vous l'avez dit en introduction, c'est très difficile de comprendre le monde d'aujourd'hui, donc c'est tentant d'aller vers des explications simples. Troisièmement, on le voit en France avec la préparation de l'élection présidentielle, il y a une défiance à l'égard de la classe politique et médiatique qui est considérable. Donc là aussi, le complotisme s'appuie sur cette défiance. Quatrièmement, c'est le déclin plus généralement des grandes idéologies. Autrefois, on avait une manière de plaquer des grilles de lecture toutes faites et assez consensuelles sur la réalité mondiale. Ça ne fonctionne plus, on le voit bien. Et enfin, je crois qu'on ne peut pas le sous-estimer, il y a l'irruption d'Internet. Parce que Internet permet à des théories qui étaient autrefois des théories complètement marginales d'avoir accès au grand public. Vous parliez tout à l'heure du 11 septembre aux États-Unis et 2001. On a aujourd'hui en France 56% des gens qui disent l'explication officielle n'est pas la bonne. 56%. C'est inexplicable. Un tel chiffre sans le rôle d'Internet.
Alors, j'aimerais revenir, peut-être qu'on peut rassembler les deux questions. Je voulais rebondir sur les États-Unis. Bertrand Badie, c'est quand même difficile d'expliquer que le monde aujourd'hui n'est pas gouverné par le plus puissant. Et finalement, est-ce que l'État lui-même est devenu obsolète?
Alors, c'est un élément de la réponse. Mais la question que vous posez est absolument fondamentale. Parce qu'elle repose sur un paradoxe. Lorsque l'URSS s'est effondrée entre 1989 et 1991, il n'y avait plus qu'une seule superpuissance. Et d'aucuns, prudemment, l'a baptisée même, rappelez-vous, hyperpuissance. À l'époque, cette superpuissance couvrait presque la moitié des dépenses militaires mondiales. On en est maintenant encore à au-dessus de 40% des dépenses militaires mondiales. Et pourtant, cette puissance qui, de bien des points de vue, va très bien, c'est-à-dire sur le plan économique, sur le plan technologique, sur le plan des performances universitaires, sur le plan général du soft power, le succès de la langue anglaise, des modes américains de consommation. Et cependant, on constate de manière tout à fait remarquable une régression formidable de la puissance américaine presque du jour où elle n'avait plus de rival direct, c'est-à-dire où elle n'avait plus son double. Elle a certes des ennemis, mais elle n'a plus son double comme l'URSS était son double. Ce qui prouve bien qu'effectivement, je ne dirais pas le déclin, j'aime pas ce mot parce que justement il prête à confusion, mais cet échec de la superpuissance américaine de s'affirmer, de s'imposer comme le grand régulateur, le grand organisateur du monde, ne tient pas à des erreurs, ne tient pas à des contre-performances, ne tient pas à de mauvaises politiques. Après tout, aux États-Unis, on a tout essayé, autant le néoconservatisme que le libéralisme de droite avec Clinton ou de gauche, entre guillemets, avec Obama. Mais tient simplement à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette disjonction qu'il y a désormais entre puissance et mondialisation. C'est-à-dire une puissance aussi forte, aussi dotée soit-elle, ne peut plus, si vous me passez l'expression, tenir le monde. Et ça, c'est quand même quelque chose de très très important. Et pourquoi ne peut-elle plus tenir le monde? Eh bien, je crois qu'on touche là du doigt l'un des grands aspects de notre mondialisation, à savoir que la mondialisation n'est plus une compétition entre puissants. Ce qu'étaient tous les systèmes internationaux jusqu'à 1989. Mmh. Jusqu'à 1989, qu'est-ce qui faisait l'agenda international? C'était cette espèce de course de Formule 1 entre États puissants. Puis les autres, ils regardaient où ils souffraient. Mais en tous les cas, ils n'intervenaient pas. Maintenant, il y a une double rupture qui est intervenue. Première rupture, ce sont souvent les faibles, les petits qui font l'agenda international. Sans le vouloir, mais de facto. C'est-à-dire, regardez les principaux conflits, ce sont des conflits issus de la faiblesse politique, institutionnelle, économique, sociale des pays concernés. Le champ de bataille n'est plus chez les grands, comme il l'était en Europe autrefois et jusqu'à il y a peu de temps, il est chez les petits. Et deuxièmement, ça rejoint aussi un point qu'on a déjà abordé, derrière cette lutte tout à fait inégale, se profile l'apparition, le surgissement de tout un tas d'acteurs contre lesquels le canon ou l'arme nucléaire n'ont pas beaucoup d'efficacité. Vous le pensez... canon, ça marche contre le canon. Mais le canon, face à des lambeaux de société, face à des milices, face à des réseaux terroristes, voilà, exactement. Ou alors, tout autre chose face à des intérêts économiques, face à des messages religieux. Que voulez-vous que le canon fît contre des messages de nature religieuse ? Donc tout ceci vient complètement remettre en cause les règles du jeu. La règle du jeu depuis le XVIIe siècle européen, c'était le canon contre le canon, et le meilleur canon, surtout celui qui sera utilisé le plus intelligemment, gagnera. Maintenant, ce n'est plus ça, parce que vous avez des variétés de cibles, de situations et d'acteurs qui ne relèvent pas de ce jeu. Et du coup, non seulement les États-Unis d'ailleurs, mais tous les puissants se sont cassés les dents. Pensez à l'URSS en Afghanistan, ou d'ailleurs en Tchécoslovaquie, ou même déjà en Hongrie, ça commençait à tourner différemment. Pensez aux puissances européennes dans les guerres coloniales. Pensez à ce malheureux jeu français dans son fameux précaré. Finalement, que peut faire la France face au désordre centrafricain?
Dominique Vidal, oui.
Oui, je crois que c'est d'autant plus compliqué pour les États-Unis qu'on a assisté depuis deux mandats présidentiels, ceux d'Obama, à une révision de la stratégie mondiale des États-Unis. Et donc, qu'est-ce qui tient à l'impuissance pour les facteurs qu'a cité Bertrand? Et qu'est-ce qui tient à une volonté de rectifier le tir? C'est pas évident de le dire aujourd'hui. Peut-être il est trop tôt pour faire un bilan des présidences Obama. Mais en tout cas, c'est clair que Obama a eu une tâche qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait eue et qui mérite d'être mentionnée. L'anti-américanisme primaire n'est pas une clé de compréhension du monde, je crois. Ne l'a jamais été, mais l'est encore moins aujourd'hui. Il a dû retirer l'Amérique de pièges dans lesquels George Bush l'avait enfoncé. Je pense au piège afghan et je pense au piège irakien. Et donc, on a une apparence de déclin dont il n'est pas sûr que ce soit un véritable déclin. De la même manière, j'ai été frappé par un article que Michael Clair a fait dans le Monde diplomatique le mois dernier, qui attire notre attention de manière critique, pour être clair, sur la sous-estimation que nous avons en Europe du rôle des Américains dans le réarmement anti-russe dans l'ensemble des pays autrefois démocratie populaire. C'est un réarmement fort, important, qui explique largement la crise ukrainienne. Et donc, on doit, dit Michael Clair, être attentif à ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on voit Obama se retirer d'Afghanistan et d'Irak, on le voit moins, alors qu'il le fait, réimplanter les États-Unis à l'est de l'Europe. Donc, il y a là toute une série d'éléments qui méritent réflexion avant de juger. J'ajoute, pour ma part en tout cas, que je crains que nous n'ayons à regretter Obama, vu les deux candidats qui se présentent. Parce que il y a Trump sur lequel tout a été dit, mais il y a aussi Hillary Clinton dont on ne peut pas ne pas signifier qu'elle est sur des pistes qui sont des pistes de
plus
retour
interventionniste, en arrière, elle a plus interventionniste, l'intervention américaine en Irak,
plus atlantiste au sens
et soutenue par tous les néoconservateurs d'hier.
Voilà, donc je crois qu'il faudra revenir à l'occasion sur la période Obama et ses aspects positifs, ses aspects négatifs, la complexité de ce monde, et pour mieux juger l'état d'intervention ou de non-intervention des États-Unis à l'échelle mondiale.
Pour résumer, pour terminer cette première partie d'émission, ce qu'on pourrait dire, puisqu'on parle des États-Unis, on continue sur les États-Unis très rapidement, c'est finalement une visibilité moindre, mais une puissance, voire une influence toujours bien réelle, si je devais résumer.
Oui, et c'est très important de dire cela, parce que il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé à ce stade de la discussion, c'est que s'il y a vraiment quelque chose qui tient aujourd'hui, c'est cette pensée unique dominante, et donc cette culture dominante, et donc ce soft power américain qui effectivement nous tient, quelquefois nous empêche de penser de manière libre et critique. Seulement, c'est pas du pouvoir, parce que on adhère au soft power américain, mais on ne suit pas pour autant la politique américaine. Donc ça n'enclenche aucun pouvoir américain.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Bertrand Badi et Dominique Vidal dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'édition 2017 de l'État du Monde qui vient de paraître aux éditions La Découverte avec cette question. Qui gouverne le monde? Nous retrouvons nos invités Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, et Dominique Vidal, journaliste et historien. Vous identifiez 5 paramètres du système international qui peuvent générer du pouvoir. Je les cite rapidement: la tradition, le sacré, le religieux, l'État, l'économie et la mondialisation, qui mobilise précisément des paramètres de pouvoir inédits. J'aimerais qu'on s'appesantisse quelques instants sur la religion, sa place. Elle se mêle à la guerre aujourd'hui, la religion. Est-ce qu'elle est la source même de la guerre, Bertrand Badie ?
Source, certainement pas, certainement pas. Le problème du religieux, c'est qu'il a une capacité symbolique absolument extraordinaire. Puisque employer des formules religieuses quand vous vous adressez à vos semblables, c'est de dire, en quelque sorte, « ma parole vient de plus fort que moi et que vous ». Et par définition, elle ne se discute pas puisqu'elle est surhumaine. C'est une formidable recette de pouvoir. Je pense que c'est la recette la plus efficace pour exercer du pouvoir. Obéissez-moi, puisque mon pouvoir vient de Dieu. Et en même temps, la plus mobilisatrice. Suivez-moi, puisque c'est un appel qui vient de Dieu. À la limite, il n'y a plus de liberté possible, puisque celui qu'on tient pour essentiellement supérieur à vous donne un ordre que vous ne pouvez que suivre. Donc ne vous étonnez pas que tout entrepreneur politique, qu'il soit gouvernant, qu'il soit chef de guerre, qu'il soit chef d'opposition, qu'il soit tribun de quelque nature, aille puiser dans ce répertoire parce qu'il sait qu'il en tirera des résultats bien meilleurs, bien plus efficaces que si vous vous réclamez du matérialisme historique dialectique ou de la pensée libérale. Et du coup, toute l'histoire de l'humanité, mais du fond des âges, c'est-à-dire qu'on a tendance aujourd'hui à ne regarder que notre contemporain, un contemporain qui concerne en particulier une religion que l'on stigmatise et montre du bout du doigt tous les matins, tous les midis et tous les soirs. Mais depuis le fond des âges, le répertoire religieux a servi de caisse d'instrument pour tous les entrepreneurs politiques, tous les chefs de guerre, alors pêle-mêle, les croisades, les guerres de religion, la théocratie pontificale,
l'inquisition,
le césaropapisme, enfin, ceci est un phénomène universel, généralisé, et il faut justement, pour entrer dans l'intelligence des événements qui nous marquent aujourd'hui, savoir distinguer entre l'essence et son usage, entre ce qu'est le religieux et l'usage politique qui en est fait.
Dominique Vidal.
Oui, je crois qu'on a un exemple, hélas tragique, avec le phénomène djihadiste, tel qu'il s'est développé en particulier en France, puisque là nous avons une espèce de leçon de choses, où toute une série de personnages ont attribué l'ensemble du phénomène djihadiste à l'islam. Bon, il est indiscutable que la parole musulmane s'imbrique avec le djihadisme, mais contrairement à ce qui nous a été répété, on s'est aperçu petit à petit que l'ensemble des spécialistes de cette question criaient le holà sur cette explication. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui, on le sait, presque la moitié des djihadistes français qui ne sont pas des musulmans. Nous avons toute une série d'éléments de crise sociale, économique, sociale en France, qui jouent un rôle très important parce que quand on parle de ces jeunes qui vont faire le djihad en Irak ou en Syrie, on parle de jeunes issus de familles souvent catholiques, souvent de la petite et moyenne bourgeoisie, qui sont en crise, comme on aurait dit autrefois, en crise d'adolescence, et qui se retrouvent embringués dans cette affaire. Et puis on a eu, avec les affaires d'Orlando, de Nice et de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'apparition d'un élément dont personne n'avait parlé jusque-là, qui est la folie. C'est-à-dire on a des jeunes djihadistes dont il est avéré qu'ils ont été soignés longuement, sans succès, pour des atteintes graves à leur équilibre mental. Donc on a découvert, et on découvre, malheureusement, c'est d'ailleurs beaucoup plus inquiétant, d'une certaine manière, parce que l'ennemi est multiforme et il est difficile à traquer. Mais on a toute une série d'éléments qui jouent et on ne peut pas dire que la parole religieuse, en l'occurrence musulmane, soit l'élément déterminant de ce phénomène.
Alors justement, Bertrand Badie, le terrorisme, il est aujourd'hui une question globale, ce qui n'était sans doute pas hier. Question globale, transformatrice de stratégie et de discours. On voit un Occident se trouver en grand désarroi face aux états de violence. Quelles en sont les raisons ?
Alors, plusieurs éléments. Je reprendrai ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la mondialisation des imaginaires. Lorsque autrefois, et cette autrefois ne renvoie pas à très longtemps, renvoie à quelques décennies, une guerre éclatée quelque part en Afrique ou au Moyen-Orient, beaucoup ignoraient même son existence, on n'en voyait pas les images, et en tous les cas, personne en Europe ne cherchait à s'identifier à ces formes de conflit, sauf s'il y avait une raison personnelle de le faire. Je pense par exemple les guerres de décolonisation et la manière dont les populations issues des pays colonisés pouvaient réagir ici. Mais indépendamment de cela, il n'y avait pas cette grande coordination des imaginaires. Maintenant, effectivement, le conflit palestinien dans un premier temps, syrien aujourd'hui, devient emblématique pour tout un ensemble d'individus, de groupes que Dominique a très justement dépeint il y a un instant. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que les guerres aujourd'hui deviennent en quelque sorte des guerres rhizomatiques. Ça veut dire quoi ? Les rhizomes, vous savez, c'est ce qui permet aux fraises de pouvoir pousser loin de leur plan d'origine, etc., grâce à des formes de racines souterraines. Aujourd'hui, les guerres ne sont plus localisées de manière exclusive. Elles viennent s'étendre sous forme de rhizome et viennent s'installer en France, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, aux Philippines, en Indonésie, etc. Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène tout à fait nouveau qui montre, par parenthèse, et ça c'est un point très important, que ces nouvelles guerres ne se gagneront pas avec de nouvelles batailles de la Marne, avec ces affrontements directs et frontaux. Et troisième élément, comme toujours lorsqu'il y a des opportunités, donc vous voyez là, en même temps sociologique et technologique, vous avez des entrepreneurs qui savent très bien en jouer. Et effectivement, Daesh sait très bien jouer de cette tactique, si vous me permettez l'expression entre guillemets, de double front. C'est-à-dire d'un front direct sur le terrain d'origine et sur de multiples fronts qui sont extraordinairement mobiles. Alors, tout ceci nous met au cœur de notre sujet sur qui gouverne le monde. Parce que face à des logiques conflictuelles aussi complexes et aussi sournoises, dirait-on, le jeu simple du pouvoir, c'est-à-dire la fameuse question que l'on entend tous les jours ad nauseam, c'est-à-dire « Mais Daesh, c'est que 30 000 hommes, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les écraser ?» Ou « Ce serait bien tous les diables si en quelques semaines, en y mettant le paquet, on ne les écraserait pas ?» Ben
le
justement.
Pape, combien de divisions, disait Staline.
Voilà, et nous n'en sommes plus là, c'est-à-dire que la capacité de gouverner le monde ne se mesure plus dans cette capacité militaire simple qui était celle d'autrefois, qui était celle d'un Clausewitz, le grand stratège prussien du début du XIXe siècle,
d'anéantir le,
mais renvoie à des logiques d'une complexité telle que celui qui est porteur de pouvoir en perd, sinon son latin, du moins son Clausewitz.
Dominique Vidal.
Oui, moi je crois que la question clé, c'est vraiment le rapport entre terrorisme, guerre et politique. C'est-à-dire les situations auxquelles on doit faire face en Syrie, en Irak, mais aussi, on en parle moins, en Libye, ce sont des situations issues de guerre. Ce sont les guerres occidentales qui ont complètement déstructuré les sociétés en place. Et l'absence de solutions politiques, l'absence en clair de processus permettant de retrouver l'ensemble des communautés au sein des gouvernements, représentant ces communautés, c'est cela qui fait que on a un espace qui s'est créé et développé pour le terrorisme, en particulier pour Daesh. Mais je voudrais dire qu'il y a aussi des impasses du politique qu'on oublie parce qu'elles sont plus lointaines, mais l'échec du socialisme arabe, le fait que les pays socialistes arabes soient devenus ces régimes dégénérés qu'on voit en Syrie, comme on l'a vu en Irak, ou en Libye avec Kadhafi, le triangle Assad, Saddam Hussein et Muammar Kadhafi, c'est un triangle mortel pour l'avenir de ces pays. Mais on a aussi des échecs plus récents. Et je voudrais dire, parce que peut-être nous avons été un peu optimistes ou nous avons voulu voir les choses s'accélérer plus qu'elles ne s'accéléraient, je pense aux révolutions arabes. C'est-à-dire, c'est clair que l'espoir que ces révolutions ont soulevé a été anéanti, non pas par ces révolutions, comme on dit, mais par la mobilisation des forces contre-révolutionnaires, et en particulier des forces que je viens de mentionner, dictatoriales, mais aussi saoudiennes. Et cet écrasement, à l'exception évidemment de la Tunisie, c'est un des éléments de succès de Daesh, parce que là encore, un espoir de changement a été détruit. Et évidemment que ça permet à Daesh d'attirer vers le terrorisme, vers le djihadisme, un certain nombre de jeunes. N'oublions pas que Daesh est un intervenant au Proche-Orient, pas seulement en France et en Europe. On est là devant un phénomène d'échec de la politique qui a des conséquences tragiques dans ces pays.
Alors, juste pour poursuivre un tout petit peu ce que vient de dire Dominique Vidal, qui évoquait l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, une puissance aujourd'hui peut-être discrète, un peu mystérieuse, quoique, en tout cas, dans la région. Pour ce qui est des gagnants et des perdants de la mondialisation, pour avancer un tout petit peu et ne pas oublier des aspects entiers de cette édition 2017 de l'État du Monde, les grandes sociétés, le capitalisme financier, Bertrand Badie, qui a été évidemment favorisé par la mondialisation, est-ce qu'il est pour autant aux commandes du monde? Et quelques mots aussi sur un monde dominé par la gente masculine, est-ce que ça va durer encore longtemps?
Alors, les gagnants de la mondialisation, ils sont fort nombreux. Vous avez raison de sous-entendre que les grands perdants, c'est les États, mais je restreindrai, c'est-à-dire, ce sont les vieilles puissances, parce qu'il faudrait aussi parler des puissances émergentes. Mais effectivement, les grands vainqueurs de la mondialisation, et ceux qui, dans l'échelle du pouvoir, sont en train de grimper, ce sont les acteurs organisés, c'est-à-dire ceux qui peuvent puiser dans leur capacité de s'organiser, des ressources nouvelles pour prendre de l'autonomie. Il est extraordinaire de voir comment les firmes multinationales, qui représentent une part croissante au sein de l'économie mondiale, disposent maintenant de leviers politiques extraordinaires. Je voudrais en donner trois exemples très rapidement. D'abord, l'optimisation fiscale, c'est-à-dire comment, en jouant de la mondialisation, les grandes firmes peuvent complètement ou presque complètement s'affranchir du devoir de contribution aux besoins de la collectivité à travers l'impôt qui ne paye pas. Deuxièmement, ce chantage permanent et très réussi qu'ils peuvent, grâce à la mondialisation, exercer sur les États en disant, si vous changez pas votre droit du travail, si vous ne changez pas votre politique fiscale, si vous ne nous donnez pas plus de liberté, ben on s'en va et on va créer du chômage chez vous. Et troisième élément, dans les pays du Sud, la capacité des firmes multinationales qui ne se gênent pas et qui exercent un vrai pouvoir régalien, c'est-à-dire qui contrôlent des territoires dans lesquels l'État d'accueil ne peut même pas pénétrer. Hein. Donc tout ça, c'est très important. Vous avez raison de mettre particulièrement l'accent sur les entreprises financières, parce que vous savez que maintenant, pratiquement la moitié des finances mondiales se trouvent dans des circuits financiers offshore, et cela donne aux acteurs financiers une capacité d'action et je dirais de nuisance, parce que qu'il y ait quelques soubresauts dans ces modes de placement des capitaux financiers, c'est toute l'économie mondiale qui vacille. Mais il y a quelque chose de pire, c'est que avec le jeu de la mondialisation et surtout avec la folie néolibérale des années 80, je pense à monsieur Reagan et madame Thatcher, qui sont quand même très coupable de tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on a laissé les acteurs financiers s'auto-gérer à travers les fameux comités de Bâle qui font que maintenant les États ne peuvent plus rattraper les acteurs financiers. S'il y a un désordre financier dans le monde, eh bien les États ne sont plus capables de réguler. Donc voilà un bel exemple aussi de pouvoir autonome. Alors ça ne veut pas dire qu'une firme multinationale ou qu'un acteur financier gouverne le monde, ce qui serait absurde, mais ça veut dire qu'il gouverne de plus en plus ses propres intérêts, c'est-à-dire il fait de plus en plus ce qu'il veut, et il met en échec ceux qui avaient une fonction régulatrice globale, c'est-à-dire les États. Alors maintenant, sur la question forte importante de la domination masculine, je répondrai en renvoyant à la genèse de notre livre, c'est-à-dire au premier chapitre que nous consacrons au pouvoir traditionnel. C'est-à-dire la première source de pouvoir, nous la tirons de la tradition. Et la base de ce pouvoir traditionnel, c'est un patriarcat absolument total, presque totalitaire dans les sociétés traditionnelles, qui n'a jamais quitté le monde par la combinaison, effectivement, d'un jeu de pouvoir. J'ai le pouvoir, donc je l'utilise pour reproduire ma recette de pouvoir, et par un jeu culturel, n'en déplaise à sa sainteté, la théorie du genre a un fondement réel, c'est-à-dire, effectivement, la manière dont on apprend aux hommes et aux femmes ce qu'est leur statut social dans le monde. Ça, c'est quelque chose de patent qui n'est pas discutable. Ce qui veut dire que c'est une aporie, c'est quelque chose de presque impossible, parce que comme le vivier est très déséquilibré, vous ne pouvez pas, vous ne trouvez pas, effectivement, de collègues féminins en mesure d'assurer ces fonctions et cette présence que réclamerait une politique de parité. Donc vous trouvez dans un effroyable cercle vicieux, ce qui quand même compte. Et source d'espoir, c'est que maintenant, ce sont des choses qui sont dites. Et à partir du moment où les choses sont dites, il y a une étape qui est franchie. Parce que il y a encore 50 ans, ces choses ne se disaient même pas.
Dominique Vidal.
Oui, moi je voudrais donner un autre exemple de la complexité de cette appréciation de qui gouverne le monde. Mmh. Bertrand parlait des vieilles puissances. La France en est une, de toute évidence. Et elle est, de toute évidence aussi, en déclin. Là, il n'y a pas de discussion sur le déclin. On le voit d'ailleurs au plan économique et social, qui n'est que la traduction de la réalité française dans le monde. Mais en même temps, on voit la France très présente sur le terrain militaire, dans le cadre d'interventions plus ou moins légitimes, et elle est dans une ascendance de vente d'armes absolument stupéfiante. La France était tombée, si j'ose dire, à 4,8 milliards d'euros de vente d'armes. Elle est passée en 2015 à 16 milliards d'euros, et on parle pour 2016 d'un chiffre encore plus important, doublé ou plus que doublé. Donc voilà, il y a des usines à faire tourner, mais d'une certaine manière, qu'est-ce qui entraîne quoi ? Parce que est-ce que ce rôle de la France dans les interventions militaires et ce rôle de la France dans les ventes d'armes dans le monde, la France sera le deuxième vendeur d'armes après les États-Unis en 2018, semble-t-il, est-ce que ça n'entraîne pas des conséquences sur la politique extérieure de la France ? Est-ce qu'il n'y a pas là un élément qu'on avait perdu de vue depuis longtemps et qui redevient un élément extrêmement important dans la détermination de la politique française. Voilà un exemple de puissance déclinante, mais dont l'intervention sur le terrain mondial à l'échelle de grandes interventions militaires et de ventes d'armes fait qu'il reconquiert d'une certaine manière sa puissance perdue et sur un bien mauvais terrain.
Alors pour terminer cette émission, et je suis désolée parce que le temps nous manque, mais c'est une notion que je voudrais absolument qu'on aborde. Bertrand Badi, je me tourne vers vous, si vous pouviez nous répondre de façon assez succincte. La démocratie, par l'effet de la mondialisation, est-ce que on la voit aujourd'hui être menacée, en tout cas affaiblie?
Tout à fait. Vous savez, la démocratie, qu'il faudrait d'ailleurs corriger et appeler la démocratie représentative, a été inventée dans le contexte du parachèvement de la construction de l'État-nation. Et effectivement, j'allais dire, ça avait du sens. Mais regardez aujourd'hui pour la France, hein, restons chez nous. Lorsque nous votons en France, on voit que les décisions sont prises à Bruxelles. Et souvent d'ailleurs, dans d'autres régions plus anonymes du monde. On ne va pas reparler de tout ce dont on a parlé il y a un instant. Donc effectivement, il y a un décalage entre le choix populaire et les décisions prises. Ce décalage, il s'appelle crise de la démocratie. Personne, j'entends, parmi la classe politique et la classe dirigeante, n'en parle, ce qui est extraordinairement inquiétant. Beaucoup plus inquiétant que le port d'un voile dans les rues de Paris ou de Nice.
Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Bertrand Badi, professeur des universités à Sciences Po Paris, et Dominique Vidal, journaliste et historien que nous recevions dans le cadre de la sortie de l'État du Monde, édition 2017, avec ce titre « Qui gouverne le monde ?». Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook. Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.